Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Ensemble avec la culture, ensemble pour la liberté d'expression, il est 18h15 si vous nous rejoignez sur Europe 1 et nous sommes en direct jusqu'à 20h. Émission spéciale au théâtre du Rond-Point avec notre hôte, il est auteur, metteur en scène, directeur de ce théâtre, Jean-Michel Ribes. Vous avez poussé très loin, vous nous le rappeliez tout à l'heure, la liberté d'expression en programmant et cela vous a mené au tribunal Golgotha Picnic, c'était en 2011. Vous avez été poursuivi pour provocation à la haine envers les chrétiens, puis relaxé au motif que la présentation, certes péjorative de Jésus ne pouvait être lue comme une provocation générale envers les croyants. C'était Golgotha Picnic et cette phrase qu'on a entendue jusque dans les slogans tout à l'heure, Place de la République, que l'on vous doit, on ne vous empêche pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser. Allez-vous adapter, réadapter encore votre programmation au plus près de l'actualité, Jean-Michel Ribes, et cette actualité terrible de Conflans-Sainte Honorine ?
Notre programmation, elle est éternellement dans ce sens-là, sur la défense de la liberté, sur la défense absolue de l'expression, de la création. Alors évidemment, il y a déjà des... Par exemple, The Normal Earth, qui est un hymne absolu. Vous savez, c'est toute l'histoire quand le sida est apparu et quand les politiques américains ont voulu mettre tout ça sous le tapis et de rien parler. Donc c'est vraiment un hommage à Larry Kramer qui vient de mourir. Et c'est tout ce qui s'est passé autour de lui. Et c'est le combat à la fois des journalistes, à la fois de la liberté contre justement un obscurantisme total qui cachait une maladie. Et puis il y a Pollo Rojo qui sont des Argentins magnifiques qui viennent physiquement défendre, je dirais, l'expression avec excès, mais l'expression, la libre expression par le corps. Et puis il n'est pas un peu, il y a évidemment l'ultime héritière de Charlie Chaplin qui vient ici aussi, qui est bon, avec le cirque invisible, mais il n'est pas impossible, et je suis en train de revoir ça avec mon équipe, où j'ai une réunion demain, qu'on puisse faire des interventions et inviter des gens pour une libre parole autour de ce thème.
Bon, et bien c'est aussi ce que vous nous permettez de faire, et ce qu'on se propose de faire ce soir sur Europe 1, en conviant ces personnalités dont vous êtes, Patrick Peloux, médecin urgentiste, artiste intellectuel aussi, bien sûr, à votre manière, et vous étiez tout à l'heure Place de la République. Vous avez communié de nouveau avec ces milliers d'anonymes, de citoyens qui, une fois de plus, malgré la crise sanitaire, malgré ses obstacles à la vie, malgré ses entraves, étaient là pour soutenir la mémoire d'un homme mort parce qu'il défendait la liberté.
De Samuel Paty, il faut dire son nom, professeur d'histoire, et on pense à sa famille, on pense aux élèves de son établissement scolaire public, et on était, en effet, on était tous... rassemblés, on aurait voulu être beaucoup plus, mais je pense qu'on était beaucoup plus. La crise de la Covid-19 n'aide pas au rassemblement, vous vous en rendez compte, c'est les congés, etc. Mais partout en France, je le sais, au niveau des mairies, les gens se sont rassemblés. La République est attaquée, la laïcité est attaquée, la liberté d'expression, la culture est attaquée. C'est un ensemble, c'est pas rien ce qu'ils ont fait là. Ils ont décapité un professeur d'histoire. C'est absolument majeur à comprendre. Il ne faut pas que les professeurs d'histoire, et je leur fais confiance, et on doit tous les soutenir, tous ceux qui sont ici, tout le monde doit soutenir les professeurs, parce que ils vont faire cet enseignement pour expliquer l'importance de la laïcité, de la liberté d'expression. S'ils s'auto-censurent, s'ils ont peur, s'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, quand il y a une cabale et des rumeurs honteuses contre eux par les islamo-fascistes, eh bien, ils n'y arriveront pas et ils ne feront pas cet enseignement. Or, cet enseignement, c'est le vivre ensemble.
Bien sûr.
La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est l'antiracisme. C'est ça qu'il faut comprendre.
Jean-Michel Ribes, Rosine Bachelot.
Oui, non, je dis simplement qu'en gros, c'est l'espèce de bêtise absolue de l'obscurantisme. Tout acte culturel est un acte de résistance. Mm-hmm. Même aujourd'hui, de jouer Les Femmes Savantes, c'est un acte de résistance, comme de jouer une pièce de Rodrigo Garcia, pardon, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, c'est un acte de résistance. C'est-à-dire, la culture elle-même, à partir du moment où elle a pour mission de bousculer et d'apporter de l'air frais, est un acte de résistance.
Je voudrais qu'on accueille ensemble la ministre de la Culture. Bonsoir, Roselyne Bachelot.
Bonsoir, Wendy Bouchard.
Vous vous êtes indignée, évidemment, après cet assassinat de Samuel Paty, qui enseignait l'éducation civique et morale dans le respect de la laïcité. Qu'en dites-vous de la liberté d'expression aujourd'hui, en 2020, en France, Roselyne Bachelot ?
La liberté d'expression est quelque chose qui ne peut pas être vendu par appartement. C'est quelque chose qui ne peut pas être amoindri. Ce professeur faisait un travail tout à fait considérable d'expliquer ce que signifie la caricature dans notre société, dans la France. Bien sûr, l'enquête est en train de se faire, donc je ne veux pas faire de commentaires sur ce qui est en train de se dérouler, mais il semble bien que le professeur, d'une façon très délicate, et inviter les personnes, les élèves qui auraient pu être choqués, il les a invités à sortir. Ce n'était pas une obligation, c'était une possibilité. Donc il a ménagé les susceptibilités. Il a une vision extrêmement délicate de ces choses, et il est puni, on peut même pas employer de terme de punition. Il est martyrisé, c'est un martyr, ce professeur, et véritablement, la ministre de la Culture que je suis est dans un sentiment d'horreur, de révolte et de détermination à l'action.
Roselyne Bachelot, faut-il republier pour vous ces caricatures et montrer d'ailleurs, par exemple, parce que si l'on prend Charlie Hebdo, montrer tous les dessins qui ont mis en scène, qui ont tourné en dérision, tous les cultes d'ailleurs?
Exactement. Et je crois que c'est très important de dire que les catholiques auraient pu se choquer, peut-être l'ont-ils été, des caricatures du pape qui sont extrêmement nombreuses dans Charlie, on les connaît, des caricatures sur la religion juive et les rabbins. Il n'y a pas dans Charlie ce que certains ont appelé à tort de l'islamophobie. C'est un journal laïque, c'est un journal qui proclame son athéisme, et il en a bien le droit, et il se moque, il caricature les religions, toutes les religions sans exception. Donc, et c'est important de montrer cela. C'est important aussi pour un professeur de le contextualiser. C'est justement en apprenant la lecture de ces caricatures dans un cours d'histoire, dans un cours d'éducation civique, qu'on devient un citoyen adulte et responsable. Il faut surtout continuer, il faut surtout montrer cela, il faut surtout expliquer que c'est en quelque sorte l'âme de ce pays que d'autoriser, l'âme de la France que d'autoriser le blasphème.
Oui.
Pouvoir blasphémer, c'est un moyen de la liberté.
On va y revenir évidemment très largement dans cette émission. Roselyne Bachelot, vous restez avec nous pour parler ensuite du soutien aux artistes ou du rendez-vous manqué peut-être au cœur de cette crise justement aux artistes. Bonsoir Richard Berry.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre avec Patrick Pelot qui vous écoute, Jean-Michel Ribes. Vous serez sur la scène du Théâtre Libre Jean-Marc Dumontet à Paris dans quelques instants puisque vous jouez vous à 19h le spectacle Plaidoirie. Quel beau mot, plaidoyer, pour soutenir justement la liberté de conscience, la liberté de penser. Vous êtes au cœur de l'actualité aussi en nous rejoignant et en intervenant ce soir, Richard Berry.
Oui, c'est justement des moments d'histoire dont il est question dans ces plaidoiries. Des moments d'histoire qui ont fait, à un moment donné, basculer les mentalités, les lois, parfois. Et on est au cœur du débat dont on est en train de parler en ce moment, de la République, de la démocratie, du droit à penser, de la liberté d'expression. Ce que disait tout à l'heure Patrick Pelot était magnifique. On s'est attaqué à un symbole. Il faut conserver, à un moment donné, cette liberté de penser, cette liberté de contredire, et défendre et donner aux enseignants la possibilité de le faire dans la sérénité la plus totale. Donc il faut le soutenir de la façon la plus puissante qu'on peut le faire.
Car cet homme ne pourra pas être défendu. Il a heureusement tant de frères, de sœurs, de défenseurs aujourd'hui, Samuel Paty, pour soutenir et tenir sa mémoire, justement. Donc, c'est le plaidoyer qu'on peut lui offrir.
N'oublions pas non plus que c'est la façon dont il a été dénoncé, quand même. Il y a tout un système autour de ça qu'il faut essayer de démonter. Il y a des gens qui ont posté des vidéos sur Internet. Il y a tout un principe, un fonctionnement qu'il faut, à mon avis, mettre en question dans cette affaire. Il faut essayer de comprendre pourquoi, comment. Je pense que la justice doit s'en occuper.
Jean-Michel Ribes.
Oui, Richard a raison. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'espèce de jeu sordide, la joie de la délation. Mmh. C'est un sport qui se pratique en France, qui s'est pratiqué en France beaucoup, et c'est bien de le dénoncer.
Patrick Pelou.
Richard Berry a totalement raison. Il faut, je l'ai dit à un député, qu'il me pardonne, je me souviens plus de son nom, un député La République En Marche tout à l'heure, je lui dis, il faut que le législateur reprenne le droit sur les réseaux sociaux. On peut pas laisser les réseaux sociaux devenir la poubelle de tout, les égouts de l'intelligence, d'accord ? C'est pas possible qu'on continue à laisser les rumeurs et comme ça de lancer les gens en pâture avec les menaces de mort sans arrêt, les appels au viol, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que le législateur s'en empare. Et il faut, je suis désolé, mais quand vous voyez YouTube qui s'amuse à laisser des images de décapitation sur ses réseaux, la propagande de Daesh, la propagande d'Al-Qaïda, ce n'est pas possible. Il faut qu'on change de braquet, parce que là, on a perdu. On a totalement perdu si on ne s'attaque pas aux réseaux sociaux. Alors après, oui, je suis pas pour ce que fait la Chine quand d'un coup elle arrive pas à faire entendre raison à Twitter, pouf, elle coupe Twitter. Mais d'un coup, il y a quand même un problème.
Oui,
parce
problème.
Que tu vois, moi je te dénonce Jean-Michel, ou je dénonce ta vie privée, etc. Tu vas me faire un procès. Voilà.
C'est pas sûr.
Le mal sera fait.
Mais sur les réseaux sociaux, tu pourras rien faire.
Ouais.
C'est ce qui arrive à Zineb El-Razoui en ce moment, d'accord. Et d'un coup, elle est menacée et tout, et on peut rien faire.
Le vrai problème que tu soulèves, c'est qu'à partir de là, la défense de tous ces gens, c'est la liberté d'expression simplement pour certains et pas pour d'autres. C'est ça le problème.
Mais c'est faux, faut l'encadrer.
Il
y a la liberté d'expression parce qu'elle est encadrée par la loi. Et c'est pas la loi de Dieu qui va faire la loi en France en 2020.
Merci de le redire. Alors que Roselyne Bachelot, vous nous aviez bien dit les choses tout à l'heure, pouvoir blasphémer est un moyen de la liberté. Richard Berry, on va vous laisser vous concentrer, mais simplement un petit mot parce qu'on va parler ensuite de l'adaptation justement de tous les artistes que vous êtes à ce couvre-feu pour 20 millions de Français. Donc vous jouez à 18h ou à 19h au Théâtre Libre Jean-Marc Dumontet et vous ressentez ce besoin immense des spectateurs de culture, d'artistique, de conscience, de prise de conscience avec du contenu, Richard.
Faut dire que oui, c'est même héroïque de leur part de venir au théâtre dans ces conditions.
Oui,
pourquoi
oui.
J'en profite si Roselyne m'entend. Bonjour Roselyne. De trouver un moyen quel qu'il soit pour leur obtenir des dérogations, les rassurer si ils n'arrivent pas à être chez eux à 19h. Je sais que c'est compliqué, mais pour l'instant chez eux avant 21h. Je veux dire c'est très difficile en ce moment pour les spectateurs, c'est difficile évidemment, bien sûr pour le monde du spectacle, pour la culture d'une manière générale, mais pour les spectateurs, il faut dire que c'est un parcours du combattant de venir au théâtre en ce moment. Là on voit les reports qui sont démultipliés. Quelqu'un qui habite un tout petit peu en banlieue ne peut pas venir au théâtre en ce moment à 19h, c'est impossible. Donc on peut pas non plus proposer aux gens des horaires à 18h, ils sont au travail. Donc c'est extrêmement compliqué, il faut absolument assouplir ce protocole de couvre-feu pour les spectateurs.
Bah, on verra ce qu'on pense, Roselyne Bachelot, dans un instant. En tout cas, merci beaucoup, Richard Berry. Bonne pièce, bonne plaidoirie ce soir à Paris à 19h. On se retrouve dans un instant avec Patrick Pelou, avec Jean-Michel Ribes, et puis nous rejoindrons pour le débat sur la culture, notamment l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon et les Grandes Voix d'Europe. À tout de suite sur Europe.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, nous sommes au Théâtre du Rond-Point à Paris pour une émission spéciale que nous dédions à la culture, à la liberté d'expression, au rôle de l'artiste, à son engagement aussi face à l'obscurantisme et aux obscurantistes. Nous avons en exergue cette phrase de notre hôte Jean-Michel Ribes, « On ne vous empêche pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser », une phrase qui est ressortie hélas lors des attentats de 2015 et encore tout à l'heure place de la République en mémoire à Samuel Paty. Nicolas Briançon nous a rejoint. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et dans quelques instants nous allons prendre part au débat des grandes voix sur ce sujet, mais je voudrais que nous revenions avec Roselyne Bachelot de quelques mots sur la dérogation que vous aviez proposée, Madame la Ministre, que les billets de spectacle servent de justificatif pour entrer chez soi après 21h dans les 1750 villes concernées en France. Jean Castex a retoqué votre idée. Vous êtes sentie abandonnée avec les professionnels du spectacle, Roselyne Bachelot ?
Je ne me sens ni incomprise ni abandonnée parce que nous allons ensemble affronter cette crise avec des mesures spécifiques et avec des aides massives. Vendredi dernier, j'ai rencontré longuement dans une réunion de travail approfondie le ministre des Finances, de l'Économie et de la Relance, et je lui ai exposé les besoins du secteur qui vont permettre au secteur d'affronter cela de la moins mauvaise façon, parce que je sais bien que l'argent ne remplace pas tout. Il y a le désir de jouer, de chanter, de produire, et il faut pas que les choses se perdent, que l'expertise se perde, que l'expérience artistique se perde. La France est le pays qui a le plus fait déjà dans cette crise, dans cette crise terrible que nous vivons depuis le coronavirus. Ce sont des milliards qui ont été injectés dans le secteur de la culture, et d'ailleurs, je les ai rencontrés de façon approfondie toute cette semaine, tous m'ont dit à quel point ça avait été important, le chômage partiel, les exonérations de charges, la prise en charge de l'intermittence prolongée avec des modalités extrêmement forte pour le secteur, les fonds de solidarité. On n'aurait pas pu affronter cette crise sans avoir tout cet argent. Alors, moi, je sais que il y a une profonde volonté dans le spectacle vivant de jouer. Sans doute, avec les nouveaux horaires, avec les nouvelles modalités d'espacement physique, on n'atteindra pas le seuil de rentabilité. Oui. Et nous, on va être là pour compenser tout cela et permettre aux artistes qui veulent continuer de pouvoir le faire.
Bon, les choses sont dites, Nicolas Briançon.
Je salue Roselyne Bachelot, que j'ai bien connue quand je dirigeais le Festival d'Anjou, puisqu'elle elle était députée du Maine-et-Loire.
Absolument.
Et je suis ravi de pouvoir lui parler, mais je pense que ce que nous demandons en ce moment, ça n'est pas de l'argent. Bravo pour ce qui a été fait. On attend d'ailleurs la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures annoncées, mais qui pour le moment n'ont pas encore trouvé d'effets concrets, mais on ne doute pas que ça viendra sûrement à un moment donné. Mais là, on demandait une chose toute simple, toute bête, tellement idiote, de permettre aux gens, il y a des spectacles, une durée de spectacle, c'est entre 1h50, 2h15, parfois un peu plus quand on joue des classiques, et d'ailleurs on y reviendra un peu tout à l'heure.
Bien sûr.
On demandait que les gens qui aillent au théâtre puissent, avec leur billet de théâtre, prouver qu'ils n'étaient pas en goguette dans des bars en train de picoler et de se vomir dessus, mais qu'ils étaient allés au théâtre et qu'ils pouvaient rentrer chez eux, oui, à 21h20, 21h30, parce qu'il y a des gens qui habitent en banlieue, qui ont une heure de trajet, et pour qui c'est compliqué d'arriver au théâtre. Ces gens-là, on leur dit, en gros, ben vous n'irez plus au théâtre maintenant, ou vous irez le samedi ou le dimanche, si vous en avez le temps et l'occasion. Et donc, et d'ailleurs, je rajoute que ça aurait sans doute permis aussi aux gens de prendre le métro un peu plus tard, donc de désengorger ce qui s'annonce comme quand même un enfer sur Terre, c'est-à-dire l'accumulation de foules dans le métro.
Mais elle a plaidé votre cause. Bon, elle a été obligée de nous quitter, Roselyne Bachelot, elle a bien engagement.
Cette mesure était très simple. Alors on a dit, on nous a retoqué, Jean Castex a retoqué la mesure en disant oui, il faut la même règle pour tout le monde. Mmh. Mais alors d'abord, cet argument-là est d'une mauvaise foi absolue. Il n'y a pas de règle pour tout le monde. Les gens qui vont par exemple arriver en train ou en avion à Paris à 22h ou à 23h auront le temps de rentrer chez eux sans aucun problème. Je ne veux pas faire de démagogie parce que je trouve ça tout à fait normal, mais on ne va pas demander au ministre après 21h de ne pas rouler en voiture dans Paris ou de ne pas traverser Paris et à d'autres. Et je trouve que c'est normal. Alors pourquoi pas aux spectateurs de théâtre? Qu'est-ce que ça pouvait leur
faire? Au nom de l'exception culturelle.
Ce que ça révèle, cette histoire, c'est une mesure prise dans une urgence absolue, et c'est le plus angoissant finalement, c'est qu'on a l'impression que ces mesures anti-Covid, dont je ne nie pas l'utilité, absolument pas, hein, je suis pas là en train de dire oh, il faut rien faire, on s'en fout du Covid, pas du tout, c'est fondamental, mais que ces mesures sont prises dans une urgence telle qu'on ne les étudie pas complètement, on n'en imagine pas toutes les conséquences, et plutôt que de revenir sur une décision qui n'était pas très bonne, vous savez, ça me rappelle, moi j'ai deux enfants, et quand ils étaient un peu plus jeunes, de temps en temps, quand on est à bout, on finit par leur donner des ordres totalement idiots, qu'on maintient contre vents et marées pour pas avoir l'air de revenir sur nos décisions. C'est exactement ce qui se passe. On a l'impression qu'on nous impose un truc dont tout le monde dit que c'est une connerie, mais on le maintient parce qu'on a décidé que ça serait ça, et bien vous allez rentrer dans le rang et l'appliquer quand même.
Dans ce débat,
stupide.
Et dans quelques instants, on donnera la parole aussi à Patrick Peloux, parce que vous représentez aussi l'expertise d'urgentiste et l'expertise sanitaire du moment. En quoi ce couvre-feu peut aider justement à juguler l'épidémie, même si c'est contre-productif pour les gens du spectacle dans leur ensemble. On entame le débat des grandes voix de la culture sur Europe 1, 18h39. À tout de suite.